travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Le bonheur des hommes est son objet. C'est à ce sublime travail qu'il consacre la grande âme qu'il a reçue du ciel. Le vrai héros est l'homme qui se rend utile aux autres. Qu'on ne nous dise plus que la palme héroïque n'appartient qu'à la valeur et au talent militaire. Jean-Jacques Rousseau.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour, la guerre d'Ukraine est à nos portes, au plus près des sentiments violents que suscitent les grandes catastrophes, que leur origine soit humaine ou qu'elle soit naturelle. Et voici que parmi ceux-ci surgissent sous nos yeux, dans nos pays voisins du drame, une floraison de réactions de solidarité, de générosité, de compassion active, qui viennent contredire radicalement les pessimistes invétérés, ceux qui vont répétant sans relâche que l'homme est toujours un loup pour l'homme. Ces comportements altruistes, on a envie spécialement ces jours-ci de les replacer dans l'histoire, pour restituer la diversité de leur origine, de leur portée, de leurs relations avec les sociétés alentours. La cause des autres, c'est précisément le titre et le propos du beau livre qu'a publié récemment à ce sujet Olivier Christin, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et professeur à l'Université de Neuchâtel. Il s'imposait donc que je l'invite, avec l'ambition de donner la parole à celles et à ceux qui ont été prêts à renoncer à leur intérêt immédiat, à leur confort, souvent à leur sécurité personnelle, à se mettre en danger, tout cela au seul service d'autrui. Celles et ceux qui ont agi avec dévouement et désintéressement afin d'aider, de sauver des victimes qu'ils n'avaient jamais rencontrées auparavant. Nous allons parcourir une longue durée qui remonte à la République romaine et qui passe parmi les premiers temps du christianisme, l'humanisme italien, la Renaissance, l'époque des Lumières, la Révolution, le moment enfin des idéaux républicains. Les ressorts intimes ou collectifs de ces réactions altruistes ont varié d'âge en âge, tout comme le regard qu'on a jeté sur elles. Mais sans qu'on puisse faire bon marché de continuité, dont je pense qu'elle justifie aujourd'hui spécialement une enquête sur les permanences d'une pareille vertu. Et pour commencer, je vais vous faire entendre un discours de Gaston Doumergue, le 4 juin 1908, au moment de la panthéonisation d'Émile Zola. Il est à l'époque ministre de l'Instruction publique. Et naturellement, sous-jacente est l'affaire Dreyfus, qui a donné l'occasion à Émile Zola de sortir de son cabinet de travail pour affronter tous les périls du combat civique dans la défense de l'officier injustement condamné.
Monsieur Gaston Doumergue, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, quitte sa place et monte à la tribune aménagée sur le flanc gauche du catafalque. Il va parler.
En accordant aux cendres d'Émile Zola les honneurs du Panthéon, c'est à la mémoire d'un grand citoyen que le Parlement a voulu rendre hommage.
Il montre Zola, ouvrier des lettres, vivant à l'écart du tumulte, entouré de quelques amis.
Et voici que tout à coup, ce solitaire abandonne sa tour d'ivoire, ses livres et ses travaux, pour se jeter dans la mêlée des partis. Au milieu de cette foule, dont il avait une sorte d'instinctive appréhension, le voici qui descend héroïquement dans la rue, affrontant avec un indomptable courage et un entêtement que rien n'entame, et la bataille des prétoires, et la fureur des égarements populaires. Son acte, dont certains paraissent encore s'étonner, n'est ni l'acte d'un impulsif, ni un fait exceptionnel et inattendu dans son existence. Il s'explique logiquement, et par sa vie et par son œuvre, qui furent une vie consacrée à la recherche de la vérité, une œuvre avant tout de vérité.
M. Doumergue montre ensuite qu'en servant cette vérité, Zola servait aussi la patrie pour laquelle il avait un culte fervent. Il rappelle les épreuves qui lui furent imposées.
C'est à sa patrie qu'il pensait d'abord, à son prestige, à son honneur. Il voulait lui garder au milieu des nations une place élue, et son angoisse pendant tout le temps qu'a duré le drame, l'angoisse qui le bouleversait, c'était que la vérité qu'il aspirait à voir jaillir de la conscience de la nation n'arriva soudain du dehors, et qu'ainsi ne fût diminué le noble renom de justicière dont la France jouissait dans le monde.
Après avoir rappelé la mort soudaine de Zola qui ne lui permit pas d'assister au couronnement de ses efforts, l'orateur en arrive à sa péroraison.
Ce n'est point par de la colère, ni par de la haine, que la nation reconquise à la vérité et à la justice doit répondre à ceux qui s'obstinent à prêcher la haine et à répandre l'esprit d'iniquité parmi les citoyens. Sans leur trouver des excuses, elle ne saurait leur refuser sa pitié. Et si elle s'irrite de leur résistance, elle doit se souvenir que c'est en luttant contre eux que s'entretiennent et se fortifient le courage et l'ardeur de ceux qui ont placé leur idéal social dans une vérité toujours plus grande et dans une justice toujours plus haute.
Olivier Christin, bonjour.
Bonjour.
Il m'a semblé que cette parole nous conduisait assez promptement et assez efficacement dans cette Troisième République dont vous partez vous-même. Il faut rappeler que Émile Zola est mort dans des conditions qui restent assez mystérieuses. Son poil avait été bouché, on ne sait pas si ce fut accidentel ou criminel. Voilà une éloquence en tout cas, peut-être un peu boursouflée, mais qui parle à nos oreilles.
Absolument, une éloquence peut-être, oui, d'autrefois, qui frôle par moments la grandiloquence, mais qui dit des choses essentielles. Et qui dit des choses très actuelles encore. On est frappé sur le lien qu'il établit entre grands hommes, culte des grands hommes, panthéonisation et vertu civique, vertu républicaine. La République, c'est pas seulement le culte des victoires militaires ou des généraux, on le verra, mais c'est le culte des grands hommes et des grands hommes utiles, utiles aux autres. Aussi sur cette description de l'homme de cabinet, de l'écrivain dans sa tour d'ivoire, qui renonce à lui-même, à son confort, à son intérêt, à ses livres, pour prendre le risque d'aller dans l'espace public, et qui fait écho à d'autres moments historiques, peut-être qu'on en parlera, de Leonardo Bruni, de ces humanistes qui décident de sortir de leur cabinet pour s'occuper des affaires de la cité dans un moment de crise, et peut-être aujourd'hui aussi sur des artistes aujourd'hui, des écrivains, des cinéastes, des gens qui renoncent à leur vie quotidienne, au confort de la vie quotidienne, pour s'engager dans les affaires de la cité, y compris la cité lointaine, par exemple, aujourd'hui en situation de guerre, l'Ukraine.
Ceux que vous appelez les héros du bien commun.
Les héros du bien commun, c'est-à-dire des héros qui cherchent à s'engager, c'est le titre du livre, pour autrui, pour la cause des autres, pour autrui, et dont le principe d'engagement est l'intérêt général, le bien collectif, le bonheur de l'humanité. On a qualifié ça différemment selon les périodes. La Révolution, le XVIIIe siècle, parlera beaucoup de la poursuite du bonheur, le bonheur commun. Dans la période de la Renaissance, on parle plus de bien commun. Aujourd'hui, on parlerait peut-être de l'intérêt général ou d'engagement humanitaire. Mais au fond, il s'agit bien de la même chose, d'actions, d'engagements qui ne sont pas des actions égoïstes ou intéressées. Il y a une forme de désintéressement, de générosité, de don de soi. Le don de soi pour autrui, pour un autrui qu'on ne connaît pas forcément.
Une suite qui suit un fil conduisant depuis l'Antiquité romaine jusqu'aux médecins sans frontières, aux médecins du monde d'aujourd'hui.
Oui, d'une certaine façon. Alors, bien sûr, dans l'histoire, on a beaucoup utilisé un certain nombre d'exemples qui sont repris, cités. Mais le fond, même si les exemples ont changé, beaucoup d'exemples romains qui vont être repris, figurés dans des statues, des tableaux, des ouvrages pour enfants, des catéchismes républicains. Mais le fond de la question reste le même. Au fond, c'est une question de nature éthique ou philosophique. Les hommes peuvent-ils agir de manière désintéressée, voire contre-intéressée, contre leur intérêt? Est-ce qu'il y a des actes moraux non obligatoires, non prescrits par la loi ou par le devoir, au-delà du devoir? Ces actes moraux sont-ils à la portée de tout le monde ou seulement de quelques-uns? De quoi parle-t-on quand on parle d'actes surérogatoires? C'est le terme technique qu'emploie la philosophie éthique ou qu'emploient les théologiens du XVIe, XVIIe siècle.
Que veut dire ce mot?
Alors, au-delà du devoir, qui font plus, c'est la taxinomie classique aristotélicienne des actes moraux, les actes mauvais, interdits, les actes indifférents, prendre du café ou du thé, c'est moralement indifférent, voilà. Et puis les actes bons, qui sont prescrits par le devoir. Et il y a toute une réflexion de théologiens et plus tard de philosophes, je pense à un philosophe américain que j'ai lu, qui m'a beaucoup passionné, qui a écrit un livre sur les saints et les héros, qui s'appelle Urmson. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils font des actes au-delà du devoir, par-delà ce qui est prescrit. Et c'est ça qui font qu'ils sont exceptionnels. Le saint fait plus que la simple dévotion, et le héros fait plus que le service militaire obligatoire prescrit par le devoir. Et c'est un peu ça qu'on a dans l'engagement humanitaire ou dans l'engagement pour aujourd'hui la cause de la résistance ukrainienne. C'est des gens qui font plus que ce qu'on leur demande. Et on l'a beaucoup vu, il me semble, aussi dans la crise sanitaire, de gens qui ont fait plus d'aides-soignants, d'infirmières, qui retournaient à l'hôpital après leurs heures de travail, d'enseignants qui travaillaient le soir pour donner des cours en plus aux élèves, qui se sont équipés en informatique, qui appelaient, même sur leur téléphone. Voilà. Des gens ont fait plus que ce qu'on est en droit d'exiger d'eux.
Voilà une continuité qui nous ramène à l'Antiquité romaine. Nous étions un instant sous la Troisième République avec Gaston Doumergue. C'est le temps où les exemplats, comme on dit dans les manuels de latin, où les exemplats sont proposés afin d'illustrer précisément la continuité de cette vertu, mot d'ailleurs ambivalent, nous y reviendrons. Qu'est-ce que l'on trouve dans ces manuels? Quels sont les personnages de l'Antiquité romaine qui sont mis en valeur? On a tout de suite un certain nombre de moments qui reviennent à la mémoire.
La création, pour ça que le texte de Doumergue est magnifique, c'est la création de l'école de la Troisième République accorde une place très importante à la question des modèles, civiques.
Par exemple.
Alors, très vite, on va donner des exemples qui se trouvent dans les livres d'histoire, qui sont donnés comme sujet de dissertation, comme sujet de réflexion. Alors, on donne toujours beaucoup d'exemples romains.
Lesquels?
Alors qu'on a un peu oublié aujourd'hui, sauf quand on dit « j'en mettrai ma main au feu », où on pense à Mucius Scaevola.
Qui a voulu montrer au roi étrusque que sa détermination à persévérer dans la défense de la patrie était absolument intangible.
Absolument. Il essaye de tuer le roi Porsena, n'y arrive pas, est amené prisonnier devant lui, et pour montrer sa détermination et la détermination de tous les Romains, il se brûle la main droite, totalement, dans un brasier, jusqu'à ce que ça devienne un moignon. On donne ça comme exemple aux enfants des écoles de la Troisième République. Coclès, qui défend seul un pont contre toute l'armée romaine. Marcus Curtius, un jeune homme. Alors, il y a un tremblement de terre à Rome, il y a une fosse qui s'ouvre dans le forum, un feu qui brûle, on consulte les oracles qui disent il faut que les Romains jettent ce qu'ils ont de plus précieux pour boucher la fosse. Les femmes jettent leurs manteaux de fourrure, les hommes de l'or, etc. Arrive Marcus Curtius qui dit non, ce que Rome a de plus précieux, ce sont ces jeunes hommes, et ils sautent à cheval dans la fosse. Et aujourd'hui, sur le forum romain, il y a toujours un lac, Curtius, qui garde le souvenir de ce suicide, de cette mort volontaire de Curtius pour sauver la cité, donné en exemple à des enfants dans les écoles.
C'est un état d'esprit qu'on retrouve, par exemple, dans ce best-seller absolu qu'a été le Tour de France par deux enfants de Bruno, Madame Fouillé en fait, qui a été publié en 1877 chez Belin et qui a connu, tenez-vous bien, une vente au total, soit à longue durée, de plus de 8 millions d'exemplaires. Et en voici un extrait, vous vous rappelez que c'est l'histoire de deux jeunes enfants qui, partis d'Alsace, sont amenés à parcourir la France et à découvrir progressivement les vertus de la République. En voici un extrait, et cette fois-ci, c'est l'opposition de Vercingétorix et de Jules César qui se veut didactique.
Vercingétorix avait un beau et noble visage. Sa taille superbe, son attitude altière, sa jeunesse produisirent un moment d'émotion dans le camp de César. Mais celui-ci le fit enchaîner, le traîna derrière son char de triomphe en entrant dans Rome, et enfin le jeta au cachot. 6 ans, Vercingétorix languit dans ce cachot noir et infect. Enfant, réfléchissez dans votre cœur et demandez-vous lequel de ces deux hommes, dans cette lutte, fut le plus grand. Laquelle voudriez-vous avoir en vous, de l'âme héroïque du jeune Gaulois ou de l'âme ambitieuse et insensible du conquérant romain? Oh, s'écria Julien, moi j'aimerais mieux souffrir tout ce qu'a souffert Vercingétorix que d'être cruel comme César. Et moi aussi, dit Jean-Joseph, ah, je suis content d'être né en Auvergne comme Vercingétorix. Le tour de la France par deux enfants, devoir et patrie.
Ce dialectique de la Troisième République commençante et enseignante, selon les principe de Jules Ferry, cette dialectique de ses relations avec l'Antiquité romaine est intéressante. Et vous avez, je ne dirais pas déniché, vous avez mis au jour un personnage un peu oublié, Olivier Christin, qui est Jules Barny, qui a beaucoup contribué à diffuser cet état d'esprit. Je vois qu'il écrivait « La République veut des âmes en qui règne le sentiment de la dignité humaine, le respect de la liberté et des droits de chacun. Le désintéressement, le dévouement, deux substantifs essentiels, le désintéressement, le dévouement à la chose publique. » Manuel Républicain, 1872, ce personnage est digne d'intérêt, Olivier Christin.
Absolument, c'est un personnage clé, un peu oublié aujourd'hui, même lorsqu'on écrit l'histoire de la Troisième République et l'histoire des penseurs républicains.
Il va prendre sa revanche ce matin.
Et j'espère qu'il prend sa revanche ce matin. Un personnage formidable, un philosophe de haute volée, très intéressant, auteur d'une monumentale histoire des moralistes du XVIIIe siècle, où il parle de Montesquieu, de Vauvenargues et beaucoup de Rousseau. Et un personnage qui va fuir le Second Empire, la répression du Second Empire pour trouver refuge en Suisse.
Où dans ?
En Suisse, à Neuchâtel.
Ah, je me disais bien, c'est là que vous enseignez.
Absolument, voilà. Peut-être comme ça que je crois son chemin aussi. Voilà, un personnage formidable et qui revient en 1871 et qui contribue à l'édification de la République et à l'invention de l'école républicaine. Et comme vous le dites très justement, avec deux intentions au fond derrière ce discours sur que doit être l'éducation, quelles sont les vertus que les enfants doivent apprendre. D'abord de forger des citoyens modèles, attachés à la patrie. Donc il y a un sentiment patriotique à créer pour que les citoyens d'un État, d'une République libre, ne soient pas des sujets et des sujets dominés par la peur et par la crainte. Et puis deuxième chose très importante, ce désintéressement, ce dévouement, ce souci d'autrui pour éviter que l'égalité et la liberté soit comme deux pistolets tournés l'un contre l'autre, pour citer Pierre Leroux. Pour éviter.
Le socialiste Pierre Leroux.
Oui, pour éviter une société d'individus atomisés dans lesquels chacun poursuit son propre intérêt. Il faut créer du sentiment commun, de l'appartenance commune, des intérêts collectifs. Et ça, c'est le rôle de l'école qui apprend cette vertu, le désintéressement, le souci d'autrui, à travers des exercices scolaires, comme la lecture de Vercingétorix, qui nous montre la force des faibles. Le plus fort, c'est celui qui est en prison et qui ne renonce pas. Les exemples qu'on va donner dans l'école républicaine de la Troisième République, dans les manuels de la Révolution française, les catéchismes républicains, les chansonniers républicains, les calendriers républicains, les jeux de cartes, on trouve souvent les mêmes figures. Alors on trouve bien sûr Voltaire, Rousseau, Benjamin Franklin, puis on trouve des figures romaines. Alors on trouve Brutus, Marcus Curtius, Scaevola.
Brutus, qu'est-ce qu'il a fait ? Vous ne l'avez pas cité encore, rendons-lui hommage.
Le premier Brutus auquel on rend hommage et qu'on donne comme exemple à des enfants.
C'est celui qui a tué César.
Non, c'est celui qui fait condamner ses deux fils à mort parce qu'ils ont intrigué avec les rois tarquins pour rétablir la monarchie à Rome. Donc, considéré comme fondateur de la République romaine, il chasse les rois tarquins, et notamment en raison du viol de Lucrèce, il chasse les tarquins. Il apprend que ses fils intriguent avec le roi pour rétablir la monarchie, et il laisse la justice passer pour montrer que la loi, le bien commun, l'emporte sur les affections privées. Donc on donne dans les manuels scolaires à destination des enfants, en exemple de comportement vertueux, bien des exemples par exemple de tentative d'assassinat, Scaevola, ou d'infanticide, Brutus, donc des exemples terribles. La vertu est terrible. Voilà.
Alors, il y a Plutarque, il y a les grands inventaires des héros dans la République romaine qui vont ensuite être...
Alors voilà, ces héros terribles qui vont être donnés en exemple, ces héros un peu terrifiants par certains côtés, des infanticides, des assassins, des gens qui se mutilent, qui se sacrifient ou qui se suicident. Ces héros, ils sont inventés dans un contexte particulier. Certains existent vraiment. C'est le cas par exemple de Decius Mus, un général, un consul qui se sacrifie, qui se dévoue. C'est un rituel religieux, en fait. Il appelle les puissances infernales à se saisir de lui et à se saisir des ennemis de Rome en même temps. Un genre de rituel d'exécration où il se dévoue, il se jette au milieu des ennemis pour mourir et entraîner avec lui les ennemis de Rome dans la mort. Lui, il y en a un dont on pense effectivement qu'il a bel et bien existé, mais d'autres exemples sont en partie inventés. Scaevola, Marcus Curtius, le premier Brutus, il y a beaucoup d'exemples de dévouement, de héros civiques qui sont inventés et qui sont inventés dans le premier siècle, la crise politique de Rome au premier siècle. la fin de la République, les débuts du Principat, le règne d'Octave Auguste, la restauration en trompe-l'œil de l'ordre républicain et des institutions républicaines. Et là, on invente les exemples idéaux du courage et de la vertu des Romains.
Et quand arrivent les chrétiens, le problème se pose, bien sûr, de savoir comment ils vont s'en accommoder, comment on va passer, en somme, de ces héros-là aux martyrs et aux saints.
Exactement.
Et c'est l'occasion de rappeler les propos de saint Augustin. Nous avions consacré une émission naguère. Saint Augustin sur le partage des cités, sur l'opposition du comportement des héros antiques et des saints plus contemporains, avec un effort pour pouvoir utiliser la gloire des précédents tout en blâmant les racines. Et écoutons saint Augustin. C'est un extrait des Nouveaux Chemins de la Connaissance d'Adèle Vendrette sur France Culture le 19 septembre 2013.
Deux amours ont donc bâti deux cités. Celle de la terre, par l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Celle du ciel, par l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. L'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. L'une, en effet, demande sa gloire aux hommes. L'autre tire sa plus grande gloire de Dieu, témoin de sa conscience. L'une, dans sa gloire, redresse la tête. L'autre dit à son Dieu, « Tu es ma gloire et tu élèves ma tête. » L'une, dans ses chefs ou dans les nations qu'elle subjugue, est dominée par le désir de dominer. Dans l'autre, on se rend service mutuellement dans la charité, les gouvernants en prenant les résolutions, les sujets en obéissant. L'une, dans ses puissants, chérit sa propre force. L'autre dit à son Dieu, « Je t'aimerai, Seigneur, toi ma force. » C'est pourquoi, dans l'une, les sages vivants, selon l'homme, ont recherché les biens du corps ou de l'âme ou des deux. Et ceux qui ont pu connaître Dieu ne l'ont pas honoré comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont fourvoyés dans leurs pensées et leur cœur insensé a été obscurci. Se proclamant sages, c'est-à-dire s'exaltant dans leur sagesse sous la domination de leur orgueil, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible contre des images de l'homme corruptible, d'oiseaux, de quadrupèdes et de serpents, car ils ont conduit les peuples ou les ont suivis dans l'adoration d'idoles de cette sorte, et ils ont rendu un culte et un hommage à la créature plutôt qu'au Créateur qui est béni dans les siècles. Dans l'autre cité, au contraire, la seule sagesse de l'homme est la piété qui rend un culte légitime au vrai Dieu et attend pour récompense dans la société des saints, hommes aussi bien qu'anges, que Dieu soit tout en tous.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney.
Le lecteur de ce beau texte d'Augustin, 5e siècle, était Georges Claës. Comment peut-on, avec le recul, voir cet effort d'accommodation du christianisme par rapport à ces héros antiques ?
C'est un texte formidable et absolument magnifique parce que Augustin est un personnage central. Il veut récupérer l'héritage antique, d'une certaine façon l'histoire, la philosophie morale antique, en la retournant contre le paganisme. Et là, pour lui, ces héros antiques, les personnages d'exception, les héros moraux, il les cite tous. Scaevola, Marcus Curtius, la liste est complète, et Decius Mis, il n'en manque aucun, sont bien louables en tant que personnes morales qui ont accompli des actes louables, libres, volontaires, dans lesquels ils ont renoncé à première vue à leur intérêt personnel. Mais, et c'est là où ils retournent contre la philosophie antique ses propres principes, ils l'ont fait pour les mauvaises raisons. D'abord parce qu'ils l'ont fait pour la mauvaise cité, ils l'ont fait pour la cité terrestre, et donc ils l'ont fait pour la gloire, pour les applaudissements, pour recevoir des applaudissements, pour quêter une réputation ou un prestige même au-delà de la mort. Et donc ils ont cherché, au fond, une gloire purement terrestre, et leur récompense ne sera que sur terre. Ce qui n'est absolument pas le cas de ceux qui sont capables de renoncer à eux-mêmes pour la vraie gloire et pour la vraie cité, c'est-à-dire pour la cité céleste, où là, ils poursuivent la seule gloire de Dieu et pas la leur, ils ne poursuivent pas des fins égoïstes et ils auront leur rétribution dans la contemplation de la divinité. Et donc, pour Augustin, il faut récupérer l'idée qu'il y a des actes moraux, des actes libres, des actes volontaires, des actes qui méritent le respect, Mais il faut attacher ces actes moraux ou établir une hiérarchie de ces actes moraux, ceux qui sont accomplis pour la gloire, pour avoir des monuments, pour avoir des médailles, pour avoir des couronnes civiques, pour avoir un culte post-mortem. Tout ça, c'est une illusion. Le vrai monde n'est pas de ce monde. La vraie cité, c'est la cité des anges dans l'au-delà. Et donc les martyrs l'emportent sur les héros pour cette première raison. Et puis il y a une deuxième raison que Augustin souligne. Il consacre une centaine de pages de la cité de Dieu à ça. Donc c'est un vrai problème pour lui. Et la deuxième raison, c'est que les héros sont très rares. Dans l'apologétique romaine, dans l'analystique romaine, les livres d'histoire, les traités de rhétorique, il y a toujours les mêmes exemples. Scaevola, Brutus, Marcus Curtius, Coclès, Torquatus. 10 noms, Scipion, 10 noms, 15 noms.
Alors que nous avons beaucoup plus de saints.
Beaucoup plus de saints, beaucoup plus de martyrs. Des nuées, beaucoup de saints, de tous les milieux, y compris des femmes, y compris des gens d'origine modeste. Et c'est une vraie révolution de la morale qu'accomplit saint Augustin avec les outils de la philosophie classique romaine.
Avec une violence dans l'opposition des deux catégories, des héros antiques et des saints, une violence qui va gêner au fond la période de l'humanisme, qui va s'efforcer d'acclimater les vertus païennes, de faire se rencontrer cet héritage-là et celui de la chrétienté. C'est là qu'on retrouve par exemple les cités italiennes, je pense.
Absolument.
À Florence, oui. Je pense à Rome.
Oui, absolument. Si on veut comprendre la situation d'aujourd'hui, pourquoi des gens peuvent s'engager dans la cité? Pourquoi des gens peuvent s'engager pour le bien d'autrui? Alors il faut rétablir l'idée que s'engager dans le monde terrestre est bien, que la cité terrestre, la vie active, n'est pas totalement disqualifiée. Donc il faut inverser l'inversion de saint Augustin. Il faut rétablir la hiérarchie autrement que telle que saint Augustin l'avait établie ou Tertullien. Notre monde n'est pas de ce monde. Les chrétiens ne doivent pas s'impliquer dans les charges politiques et dans la vie de la cité. Ils doivent se préoccuper de la cité des anges, de la cité des saints. Et ça va être le travail de l'humanisme. Ça va être le travail de l'humanisme où on trouve des gens qui ressemblent à Zola. Leonardo Bruni, un immense juriste, un immense latiniste, qui
Florence,
sort de son cabinet.
Florence, chancelier de Florence.
Chancelier de Florence, successeur de Coluccio Salutati, donc des grands penseurs.
14e siècle.
14e siècle, qui vivent dans un contexte de républicain, de menace sur la liberté de Florence, et qui s'identifient à la Rome antique, à la Rome républicaine. Pour eux, Florence est la nouvelle Rome.
La vertu, dit-il, est la maîtresse et la matrice de la vie heureuse. De la vie heureuse sur Terre.
La vie heureuse sur Terre. Il faut se préoccuper de la vie sur Terre, il faut se préoccuper de la cité terrestre, il faut se préoccuper des autres. Et il y a un courrier, une lettre incroyable de Bruni, un de ses amis, lui écrit pour savoir s'il devrait rentrer au monastère. Et Bruni lui répond que oui, il peut faire son salut en rentrant dans le monastère, mais que lui, en travaillant pour la cité, il fait le salut de tous, le salut des autres, le salut d'un plus grand nombre. Et donc il renvoie la vie contemplative à une forme d'égoïsme, au fond.
Et vous montrez bien, Olivier Christin, qu'il y a un effort, en somme, pour séculariser, pour historiciser, pour socialiser les critères de la reconnaissance.
Absolument. C'est ça qu'on voit chez Bruni, c'est ça qu'on va voir chez Erasme, c'est ça qu'on va voir dans l'humanisme. Beaucoup en contexte républicain, hein, vous l'avez dit justement, Florence, Sienne, Venise, les palais publics sont décorés avec des fresques représentant ces héros romains. À Sienne, dans l'antichapelle, on retrouve ces héros romains que saint Augustin avait déclaré moins bien que les saints et les martyrs, inférieurs, poursuivant une gloire mondaine. On les retrouve peints dans le Palazzo Vecchio de Florence. Donc c'est des fresques les mettent en valeur comme figure tutélaire de la vie heureuse du bien commun dans des républiques. Voilà. Vivre heureux, vivre bien. Donc il faut rétablir la légitimité de cet engagement pour la patrie, pour autrui, surtout dans ce contexte des villes italiennes. Voilà.
Il faut aussi mobiliser Erasme dans la réflexion, car il joue un rôle important, notamment autour de toute une réflexion sur la dette, comment les citoyens ou les membres d'une société doivent rembourser la société.
Absolument.
Pour ce qu'elle leur a donné. Notion très importante.
C'est ça que les humanistes vont faire, et au premier chef Erasme, et d'autres aussi. J'ai exhumé des textes, par exemple, d'humanistes ou de rhéteurs embauchés par les républiques italiennes, payés par Sienne ou payés par la ville de Lucca, pour faire des discours à l'occasion de certains événements. Tous insistent sur le fait qu'il y a des causes justes qui méritent qu'on s'engage pour elles. Et ça, Erasme le souligne aussi, des causes qui peuvent être la cause des autres, la cause de la cité, la cause de la patrie. Et derrière, c'est un discours très fort sur la dette. Personne n'est né pour soi seul. Personne ne vient au monde sans avoir d'obligation.
C'est le moment où, au fond, la connotation judiciaire du mot « cause » que vous employez dans votre titre, Olivier Christin, est la plus proche.
Oui, commence à progresser. La dette, en venant au monde, nous avons des dettes à l'égard de nos parents, qui nous ont élevés, nourris, protégés. Nous avons des dettes à l'égard de notre famille, nous avons des dettes à l'égard de nos maîtres, de l'école, nous avons des dettes à l'égard de la cité. Et la vie réussie, la vie heureuse, la vie civique, c'est être capable de s'engager pour rembourser d'une certaine façon ses dettes et se rendre utile. On verra que le thème de l'utilité deviendra plus tard très très important, de l'utilité sociale. Mais cette idée de dette est très importante et on la voit dans beaucoup de livres de rhétorique à destination des membres des élites urbaines. De morceaux de discours, de conseils sur comment parler au Sénat de Venise, comment parler au conseil de ville de Florence. On donne beaucoup d'exemples sur comment éviter l'ingratitude, comment ne pas se montrer ingrat, comment être capable de reconnaître ce qu'on doit à la cité qui nous a fait naître. Et c'est un thème extrêmement important qui va nourrir des quantités de recueils de lieux communs, d'exemples, où on voit revenir les exemples romains à nouveau, réutilisés et rebrassés dans un nouveau contexte, mais un contexte civique, urbain.
Et les saints, curieusement, deviennent à leur tour des héros, en dépit de la distinction que Augustin voulait imposer.
Absolument. Le renversement s'achève, y compris dans l'Église de la contre-réforme, qui voit bien le prestige qu'il y a dans cette culture antique et dans la circulation des modèles antiques, et qui va avoir tendance à héroïser les saints, soit dans les arts figuratifs, je pense par exemple aux gravures de Goltzius qui présentent les apôtres et les saints comme des guerriers, comme des hommes extrêmement forts, extrêmement puissants, pas du tout craintifs. Et puis surtout dans le théâtre religieux, le théâtre de la contre-réforme, qui présente des saints ou des martyrs bravaches, qui défient les bourreaux, qui invitent les bourreaux à les torturer encore un peu plus, en disant qu'ils ne ressentent rien, qu'ils n'ont aucune douleur, au point où même à l'intérieur du catholicisme, par exemple, les jansénistes vont commencer à ironiser sur ces pièces de théâtre dans lesquelles les saints ont oublié la première vertu qui serait la modestie.
Le moment de l'âge classique, XVIIe siècle, voit une autre évolution. Si l'on considère l'histoire de ces héros du bien commun, le dévouement, comme nous le faisons ce matin, Olivier Christin, c'est une sorte d'accumulation héroïque, comme si l'hérédité seule permettait d'être vraiment porteur de ce dévouement et de ce désintéressement.
Absolument, c'est la deuxième difficulté post-Saint-Augustin. Si on veut réhabiliter l'héroïsme, et l'héroïsme civique, le dévouement civique, alors il fallait, un, réhabiliter la vie active dans la cité. C'est ce qu'a fait l'humanisme, c'est ce qu'a fait Leonardo Bruni, Erasme. La cité est une cause juste, il n'y a pas seulement que la cause de Dieu. Mais il faut faire une deuxième chose. Il faut montrer qu'il y a autant de héros civiques aujourd'hui, au XVIe ou XVIIe siècle, que dans l'Antiquité. Et c'est la matière de dizaines, centaines de livres qui comparent les héros romains et les héros modernes.
La vertu est-elle héréditaire? C'est la question qui se pose.
On finit par faire l'éloge de la noblesse et de poser la question de l'hérédité de la vertu.
Ce que certains combattent d'ailleurs à l'époque, et du coup on retraduit certains auteurs anciens, par exemple Juvénal, c'est une traduction du XIXe siècle en vers. Qu'importe Ponticus une illustre naissance, qu'importe d'étaler avec magnificence de ses aïeux rangés dans un ordre pompeux les antiques portraits, les titres fastueux, il n'est qu'une noblesse, elle est dans la vertu.
Oui, c'est un grand débat du XVIIe siècle, puisqu'on commence à publier de plus en plus de dictionnaires de la noblesse, de dictionnaires des grands hommes, de dictionnaires des grands héros militaires, qu'on commence à montrer que les lignages nobles, aristocratiques, ont donné des dynasties de héros, de braves. Alors on laisse s'infiltrer l'idée que le courage, la bravoure, la vertu seraient peut-être liées à la naissance.
Il y a un monopole noble de l'héroïsme.
Un monopole noble de l'héroïsme avec l'idée que le sang, il y a même des dissertations de médecine qui expliquent que la vertu passe par le sang et par la génération. Encore dans les premières décennies du XVIIIe siècle, j'ai trouvé des thèses de médecine expliquant que ces qualités typiquement aristocratiques passent par le sang et par la génération.
Et par exemple, Molière se rebiffe en passant par Don Juan contre ça. Le père de Don Juan, Don Louis, indigné par son comportement, lui dit « Il n'est qu'une noblesse, elle est dans la vertu ».
Voilà, c'est la réponse, et ça va être la réponse des moralistes, et ça va être la réponse des moralistes de la fin du XVIIe et début du XVIIIe, qui vont opposer le mérite personnel, la vertu personnelle, à l'idée qu'on est automatiquement vertueux par sa naissance.
Mais c'est là qu'on voit la polysémie du mot de vertu.
Bien sûr.
Dans le contenu a évolué, suivant les moments, la vertu, est-ce que c'est le courage, ou est-ce que c'est le dévouement, est-ce que c'est...
Alors, c'est un moment de réflexion très fort sur le contenu du mot de vertu qu'on va vouloir arrimer au mérite personnel et aux accomplissements personnels et plus seulement au nom, à la naissance, au titre et qu'on va vouloir, dans le cas de la vertu civique, politique, ce qui est utile à la société, utile au monde politique, détacher aussi des vertus chrétiennes. C'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas de ça dont on parle quand on parle de la vertu civique, on ne parle pas des vertus théologales ou des vertus cardinales. Donc on voit bien qu'il y a un débat sur qu'est-ce que c'est, des confrontations sur qu'est-ce que c'est que la vertu. Et cette fin du XVIIe, début du XVIIIe, est un grand moment de mise au jour de ces débats et d'affrontements sur cette question avec le texte magnifique de Voltaire, absolument.
Débat précisément que les encyclopédistes, que les écrivains des Lumières vont porter avec une intensité spécifique. Par exemple, Montesquieu, vous citez Voltaire, on va en parler, mais Montesquieu écrivait « Les politiques grecques qui vivaient dans le gouvernement populaire ne reconnaissaient d'autres forces qui pût les soutenir que celle de la vertu, on y revient toujours. Ceux d'aujourd'hui ne nous parlent que de manufacture, de commerce, de finance, de richesse et de luxe même, la fameuse querelle du luxe. Oui. À l'opposé, dans les monarchies, l'honneur, c'est-à-dire le préjugé de chaque personne et de chaque condition, prend la place de la vertu politique. » Et la représente partout, il y peut inspirer les plus belles actions. Vous citez Voltaire, avec des nuances, Voltaire et Rousseau se rejoignent. Je vais vous les faire entendre, Olivier Christin, l'un après l'autre. Voltaire qui a blâmé les héros, casqués, saccageurs de province, au profit des grands hommes. Donc, Voltaire puis Rousseau, écoutons-les.
Vous savez que chez moi, les grands hommes vont les premiers et les héros les derniers. J'appelle grands hommes tous ceux qui ont excellé dans l'utile ou dans l'agréable. Les héros n'étaient que des saccageurs de province. On appelait ces assassins des héros. Leur brigandage était de la gloire. Un monarque, législateur, fondateur et guerrier est le véritable grand homme. Et le grand homme est au-dessus du héros. Voltaire.
Le bonheur des hommes est son objet. C'est à ce sublime travail qu'il consacre la grande âme qu'il a reçue du ciel. Le vrai héros est l'homme qui se rend utile aux autres. Qu'on ne nous dise plus que la palme héroïque n'appartient qu'à la valeur et au talent militaire. Jean-Jacques Rousseau.
C'était une archive que j'emprunte à l'émission des Chemins de la connaissance de Jacques Munier sur France Culture le 21 janvier 2002. On est porté là au cœur de la critique des Lumières adressée à la conception monarchique de la vertu et du dévouement qui remonte au siècle précédent.
Oui, c'est un tournant majeur et un tournant dont nous sommes encore les héritiers. C'est ce qu'on a appelé la démolition du héros, c'est-à-dire la démolition d'un système qui confisquait l'idée d'héroïsme au profit de l'héroïsme militaire, de l'action nobiliaire, de l'éthos aristocratique et au fond de en France, au fond de l'exaltation du roi plus grand. Héros de tous les temps, surpassant César, Auguste, Alexandre. Donc c'est une démolition qui commence un peu avant, mais qui prend tout son poids avec Voltaire. Il y a des textes magnifiques de Montesquieu aussi dans les Pensées, et ici Rousseau. Donc première chose, c'est la démolition du héros militaire et de la confiscation militaire. Deuxième chose, c'est le remplacement, qui fait un peu écho au fond au retournement d'Augustin, le remplacement de cet héroïsme militaire par l'éloge des grands hommes, et des grands hommes qui sont utiles ou agréables, qui sont dans l'utile ou l'agréable. Et donc ça va être les artistes, les écrivains, les savants...
Même les pères de famille.
Même les pères de famille. Et en tout cas, une vraie transformation qu'on voit par exemple dans les discours de l'Académie française, où on remplace petit à petit l'éloge des faits d'armes et des victoires militaires par l'éloge d'eux-mêmes, l'éloge des grands écrivains, l'éloge des grands artistes, l'éloge des grands tragédiens, des débats sans fin sur faut-il faire un Parnasse des grands artistes français.
Mais dans un premier temps, il y a une sorte d'individualisme qui s'affirmait, de la vertu, du dévouement. Et là, on retrouve l'intérêt collectif. Mutation majeure.
D'abord, l'idée de remplacer la vertu militaire par d'autres vertus, ouvrir l'espace social des possibles d'accomplissement vertueux. On peut être vertueux, on peut être utile, on peut être un grand homme sans être forcément un général et sans être forcément de naissance noble.
La vertu devient à la portée de tous.
Voilà, la vertu devient, vous le dites justement, une sécularisation, une démocratisation, une transformation. Elle devient peut-être à la portée de tous, ou en tout cas, elle n'est plus strictement liée à l'exaltation du pouvoir noble et du pouvoir militaire.
Et on va jusqu'à mettre en cause, sous certaines plumes, le principe même du dévouement, je pense... D'Holbach, par exemple, dont les écrits sont intéressants, il y a un recul par rapport à cette notion, à ses yeux galvaudée, du dévouement et de la vertu.
Oui, alors ça va être un sujet de débat et d'opposition très fort dans le XVIIIe siècle, c'est-à-dire cette substitution des grands hommes aux héros, qui préparent bien sûr le Panthéon, le culte des grands hommes de la Révolution française et notre culte des grands hommes actuels. Qu'on a vu dans le texte de Doumergue au début, évidemment, avec Zola, grand homme. Le critère du grand homme ne sera plus la victoire sur le champ de bataille et le nombre de morts, les saccageurs de province, comme disait Voltaire. Ça va être le critère de l'utilité. Mais comment mesurer l'utilité ? Utile à qui ? Utile comment ? Est-ce qu'un tragédien est utile de la même façon qu'un grand entrepreneur, ou qu'un grand négociant, ou qu'un grand savant qui va, par exemple, soigner des maladies ou améliorer certains processus agricoles ? Et du coup, ça va être l'objet de vifs débats à l'intérieur même de la philosophie des Lumières et des philosophes, entre ceux qui pensent que l'acte bon, l'acte vertueux est libre, accompli par des consciences libres, de gens qui décident eux-mêmes d'être vertueux, ou des gens comme Helvétius ou D'Holbach, qui pensent qu'au fond, il n'y a pas de véritable rôle de la conscience et d'une instance interne de détermination. Ce qu'il faut, c'est des lois qui encouragent les comportements utiles à la société. Et les gens se conformeront à ces lois et sera vertueux tout acte conforme à la législation qui encourage les actes utiles.
Et du coup, dès lors qu'on insiste sur l'utilité, on voit se profiler assez vite l'idée que le désintéressement n'est jamais réel et une sorte de décrit de ce dévouement et de ce désintéressement.
Alors, chez les héros, il n'y a pas de désintéressement. Si on connaissait vraiment leur vraie raison, on verrait qu'ils cherchent les applaudissements, la gloire, les honneurs ou un culte post-mortem. Mais chez D'Holbach, Helvétius et d'autres, il y a l'idée qu'il faut encourager les comportements vertueux parce que spontanément, on n'est pas certain que les gens se comporteraient de façon désintéressée, utile à tous. Et il y a la tendance à faire de la vertu, au fond, une espèce de conformisme. Alors, avec des nuances selon les auteurs, des textes très intéressants sur, par exemple, les formes de rétribution. Je pense à ce philosophe économiste italien Dragonetti qui veut compléter le traité de Beccaria des délits et des peines. Il dit les États sont tout à fait capables de repérer les délits et de punir les délits. Alors moi, je voudrais faire un traité des vertus et des récompenses pour compenser. Et alors, il essaie de faire la liste de quelles sont les vertus utiles à la société, comment les récompenser. Alors, il imagine des systèmes d'assurance maritime pour les marins, des systèmes d'assurance chômage, des systèmes de pension pour les veuves, de ceux qui seraient morts en faisant leur travail. Donc, on voit qu'il y a des grands débats sur comment rétribuer la vertu.
Les choses se précisent d'ailleurs au moment de la Révolution,
oui.
Où on voit précisément le souci collectif devenir essentiel, Olivier Christin.
C'est la Révolution qui porte à son terme ce processus de sécularisation, de démocratisation, d'ouverture aussi vers des possibilités d'accomplissement vertueux par les femmes ou par les enfants, et pas seulement par les hommes et les hommes les plus forts. Donc la Révolution va donner une très très grande importance et surtout va produire des instruments de diffusion des modèles, mais une production de masse. La Convention reçoit plusieurs jours par semaine des vertueux, des dévoués. Invitation faite à quelques héros, quelques dévoués, de venir, assez nombreux, de venir à la convention même, se présenter devant les conventionnels, devant les députés.
Dévoué devient un mot...
Dévoué devient un mot courant et presque, c'est le moment où le mot civisme, civique, change et prend leur sens actuel. C'est-à-dire, civisme, civique devient presque équivalent de citoyen. Et revêtent l'acception qui est la leur aujourd'hui, on réhabilite des choses qu'on avait trouvées chez les antiquaires, qu'on avait trouvées à Rome, la couronne civique, qui avait disparu pendant 1000 ans, plus de 1000 ans, presque deux millénaires. On rétablit des couronnes civiques. On va couronner le corps de Marat, le pelletier de Saint-Fargeau avec des couronnes civiques. Et on va commencer à parler de ces couronnes civiques. Qu'est-ce qu'elle, alors, à Rome, la couronne civique, c'était la couronne de feuilles, de chêne qui récompensait celui qui avait sauvé un autre citoyen. Pour la Révolution, c'est formidable. Ça permet d'exalter des gens ordinaires qui ont fait des choses au service des autres, qui ont aidé les soldats, qui ont envoyé de l'argent à la Convention, qui ont cousu des galons, des boutons, qui ont donné du pain à des soldats qui passaient. Ceux-là sont dignes de la couronne civique. Donc un nouveau rituel mis en scène et donné en exemple. Alors, des pétitions, des livres, les décades républicaines. On compile les exemples de dévoués avec des scènes incroyables, d'hommes qui viennent devant la Convention expliquer qu'ils ont perdu les deux mains dans la guerre en faisant leur devoir militaire.
On retrouve l'image de Marius Scaevola et de sa main brûlée.
Voilà, ce sont des nouveaux Scaevola qui viennent et qui racontent que, eh bien, ils n'ont plus de mains, mais ils peuvent continuer à servir la République.
On observe d'ailleurs que l'abondance des guerres dans cette période vient aussi colorer d'une façon spécifique le dévouement et le bien commun. Vous évoquez les décades républicaines et je citerai volontiers, avec en fait une pensée pour l'Ukraine, cette citation de 1795, « Poursuivez infâme, poursuivez le cours de vos attentats, empoisonnez, pillez, incendiez, assassinez. Vos triomphes, mieux que nos défaites, servent la cause de la liberté. Le feu même qui dévore ces édifices est moins funeste qu'utile à la cause de la liberté. » Fin de citation.
C'est un texte magnifique et qui est d'une actualité terrible. Parce qu'il montre d'abord que beaucoup de ces discours sur le dévouement, sur le courage, sur le don de soi, sur le sacrifice de soi pour les autres sont des discours en temps de guerre, en temps de difficulté, en temps de siège, et qu'une partie de ces textes que nous avons observés depuis Rome sont produits dans des circonstances dramatiques, sont produits face à le siège de Rome par Porsena, ou face à la peur de Florence devant les invasions milanaises ou les guerres d'Italie, produits dans les circonstances des guerres de la Révolution. Donc ces textes sont très situés, comme aujourd'hui en Ukraine. Et puis nous montre une deuxième chose, c'est que la construction des causes collectives s'appuie dans certains cas sur effectivement le récit, la dénonciation des massacres, des cruautés, des tortures, et que ça contribue à souder autour de ces causes, la cause de la liberté, la cause de l'indépendance, la cause de l'égalité, contribue à souder les esprits autour d'une cause qu'il faut défendre au péril de sa vie, au risque de sa vie.
Hier comme aujourd'hui, on incarne aussi, forcément pour une sorte de didactisme, oui, républicain, on incarne ces actes de dévouement. Il faut des personnages qu'ils représentent. Plus récemment, c'est ce qu'a signifié le magnifique geste de Arnaud Beltrame, par exemple. On pourrait évoquer aussi Mamadou Gassama, ce Malien sans papier qui a sauvé un enfant accroché à la façade d'un immeuble. À l'époque, les personnalités de Bara et de Viala, en temps de guerre, sont mises en exergue d'une façon qui, d'ailleurs, peut nous informer sur l'idée qu'on se fait à l'époque de ces héros du bien commun dont nous parlons ce matin, Olivier et Christin.
Oui, alors la Révolution porte à presque à son terme et évoque des choses très contemporaines. Ce processus de démocratisation et de sécularisation des causes et des formes de la vertu civique, en mettant en scène le courage, le dévouement, la bravoure, le désintéressement de femmes, de très nombreuses femmes dans les décades républicaines, et bien entendu le cas des enfants tués pour avoir refusé de crier « Vive le roi ».
Ça c'est Bara en Vendée.
Ça c'est Bara. Et
Viala,
et Viala pour avoir coupé les cordages et retardé un Horatius Coclès d'une certaine façon et retardé les armées ennemies. Et donc on met en scène la capacité de tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur âge, la vertu n'attend point l'âge, quel que soit leur âge, qu'on verra dans les manuels scolaires de la Troisième République, la capacité offerte à tous, en contexte de guerre, pour la liberté, de défendre la patrie, de défendre la liberté, de défendre l'égalité, de défendre des idéaux.
Et comme toujours, on met cela en musique. Écoutez cette ode sur Bara et Viala, les deux enfants que vous venez d'évoquer, une musique de Cambini, les paroles sont d'un auteur anonyme. Peuple, ces deux héros morts pour la République ont cueilli la palme civique avant d'atteindre leur printemps Pour les républicains, la vertu n'a point d'âge, son essor perce le nuage et devance le vol du temps. Barra, gardant son poste, une horde d'ennemis veut qu'il abjure sa patrie, qu'il y renonce ou qu'il mourra, faible, seul, mais guidé par son âme héroïque.
Peuple, c'est du héros, mort pour la République, ont cueilli la palme civique avant d'atteindre leur printemps. Pour les républicains, la vertu n'a point d'âge, son essor perce le nuage, il devance le vol du temps, il devance le vol du temps. Barra gardant son poste, une horde ennemie veut qu'il abjure sa patrie, qu'il la renonce ou qu'il mourra. Faible seul et guidé par son âme héroïque, il invoque à la République, et sous leur coup il expira, et sous leur coup il expira. Déjà les révoltés traversaient la Durance, la barque fatale s'avance, tout présage un funeste sort. Une hache à la main vient la plonge, il nage, il frappe, il coupe le cordage, en bravant les traits de la mort, en bravant les traits de la mort. L'ennemi se disperse et le courant l'entraîne. Il frémit la rage et la haine pour redoubler sa cruauté. Le feu parle pour cible et le héros succombe en adressant près de sa tombe un soupir à la liberté, un soupir à la liberté.
Olivier Christin, à côté des héros romains, on va trouver Barra, Viala et d'autres dans les manuels de la Troisième République par lesquels nous commencions tout à l'heure. Il y a donc une continuité et cela démontre que la césure de la Révolution française a été essentielle dans cette histoire du dévouement gratuit aux autres.
Oui, elle a été essentielle aussi parce que elle a donné lieu à une intense pédagogie civique à travers des musiques comme celle-ci, des almanachs, des agendas, des jeux de loi où on jouait. Il y avait la carte dévouement civique, couronne civique, la case, des jeux de cartes où on pouvait avoir dans le même jeu de cartes à la fois Rousseau, Benjamin Franklin, Voltaire, Guillaume Tell, exemple de la liberté suisse, et puis Brutus, Scaevola, Marcus Curtius.
On va les trouver même dans des petites vignettes offertes avec tel ou tel chocolat.
Et dans la Troisième République, on les retrouve dans les exercices scolaires, dans les exercices de dissertation, et puis dans des vignettes publicitaires
de chocolat, de chicorée. J'ai pas le droit de le nommer, mais je le nomme quand même.
Voilà, de chicorée. On pouvait, un peu comme les vignettes Panini de football, on pouvait collectionner les vignettes de héros romains et échanger, j'imagine, un Marcus Curtius contre deux Brutus.
Aujourd'hui, c'est plutôt Mbappé à la place de Barra, c'est ça?
Sauf qu'aujourd'hui, l'image du dévouement a profondément changé. Et cette question du dévouement civique a subi deux transformations, peut-être autour de ce qu'on évoquait au tout début, le discours de Doumergue, Zola, la naissance de la vraiment vie politique, parlementaire, moderne, avec les journaux.
Deux transformations, lesquelles?
Alors, première transformation, c'est que le dévouement n'est plus seulement une cause patriotique, il peut se faire aussi pour des causes à distance, loin.
International.
C'est l'humanitaire. Nous pouvons nous dévouer pour ce qui se passe en Ukraine ou pour ce qui se passe en Birmanie avec les Rohingyas, être solidaire de populations très loin.
Et puis il y a le domaine de la climatologie. Évidemment, Greta Thunberg peut figurer dans votre liste.
Absolument. Et puis deuxième transformation, c'est que ce n'est plus seulement une manière de soutenir la construction patriotique et la cité. Dans beaucoup de cas, c'est aussi une manière de protester contre les injustices de la cité. Et je voudrais peut-être conclure sur Thunberg et surtout sur Marion Dunlop.
Je vous en prie.
Qui est la femme qui a inventé la grève de la faim comme mode de protestation dans l'Angleterre à la veille de la guerre de 14. Elle est arrêtée parce qu'elle a écrit un élément du Bill of Rights sur le mur du Parlement. Elle est arrêtée, elle refuse de se nourrir.
Pour protester contre le fait que ce Bill of Rights n'était pas respecté à ses yeux.
N'était pas respecté à ses yeux et demandant que les femmes puissent bénéficier des conditions politiques faites aux hommes. Elle est arrêtée, elle va être nourrie de force, attachée sur une chaise et nourrie de force. Elle sort au bout de 72 heures et elle tient une conférence, toute une série de conférences en fait dans des associations féministes où elle raconte cette expérience de la grève de la faim. Conférences qui vont être suivies par des femmes, par des républicains irlandais et par Gandhi.
Ces entrepreneurs de la vertu apparaissent dans des temps tout à fait contemporains. Absolument. Sous cette formulation en tout cas.
Oui, c'est des entrepreneurs de vertu, mais pas dans le sens qui était appliqué à l'expression dans les années 1950-60. On parlait d'entrepreneurs de vertu pour les ligues anti-alcooliques, les ligues anti-homosexuelles dans l'Amérique de la fin du 19e. Là, c'est des entrepreneurs positifs de vertu qui veulent lutter contre l'injustice. L'injustice climatique, l'injustice faite aux femmes ou aux minorités, des entrepreneurs qui diffusent des modèles de vertu par leurs propres sacrifices.
Eh bien, je ne déteste pas que ce soit sur eux, Olivier Christin, que notre conversation s'achève. Merci d'être venu à ce micro. Votre livre que je célébrais tout à l'heure s'appelle « La cause des autres, une histoire du dévouement, une histoire du dévouement politique », paru l'année dernière aux Presses universitaires de France. Je citerai aussi le petit livre de la collection Que sais-je, précieux, qui s'appelle « Les 100 mots de la République ». Vous l'avez signé avec Stéphane Soulier et Frédéric Worms, le nouveau directeur de l'École normale supérieure. Et puis, votre ouvrage « Vox Populi » était précieux aussi, « Une histoire du vote avant le suffrage universel », paru au Seuil en 2014. Je vous avais invité à ce propos.
Oui, il s'agissait de mettre en question l'idée qui nous semble aller de soi, que le meilleur moyen de décider collectivement, c'est de considérer qu'un homme égale une voix ou une femme égale une voix, et qu'on peut additionner les préférences individuelles pour arriver à l'intérêt général. Et qu'il y a d'autres moyens de faire, il y a eu d'autres moyens historiquement, et peut-être qu'ils sont capables aussi de faire émerger d'autres formes d'expression démocratique.
La fameuse primaire populaire qui s'est un peu effondrée, qui a été naufragée récemment, néanmoins, se pouvait se situer dans cette continuité.
Dans cette continuité, les réflexions sur les jurys citoyens, sur les formes de tirage au sort, sur par exemple les formes de scrutin de liste avec panachage et biffage. Il y a plein d'autres expériences démocratiques, par exemple dans des pays comme la Suisse, où le scrutin uninominal majoritaire à deux tours est au fond très rare. La France est un des rares pays à l'appliquer totalement.
Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète, vous le savez, sur le site de Concordance des Temps, sur la page de Concordance des Temps et les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez télécharger pour une réécoute très lointaine cette émission. C'était Concordance des Temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Florent Layani à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Delphine Desbiens pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et je remercie aussi la documentation et la bibliothèque de Radio France, la documentation qui me fournit régulièrement des revues de presse, pour moi très précieuses.